Bienvenue, vous entrez dans La Zone, le podcast qui part à la rencontre de femmes créatives et inspirantes. Une semaine sur deux, une artiste, une entrepreneuse, une actrice de changement se raconte. On parle de son parcours, de ce qui l'anime, de sa zone de génie. On parle de son rapport à elle-même, au monde et aux autres. Aujourd'hui à mon micro, Samia.
Fonce, là vraiment, moi je te dis fonce. Vas-y, allez, ne t'écoute pas, fonce. Au pire, on dit non.
Vous vous apprêtez à écouter la suite de ma conversation avec Samia. Encore une milléniale qui fait des podcasts. Si vous n'avez pas la ref, appuyez sur pause et écoutez d'abord la première partie de cet épisode. Pour celles et ceux qui sont restés, je vous invite à plonger un peu plus dans le processus de création de Samia. On parle de ce qu'elle a appris du storytelling, de son premier roman en cours d'écriture et ses sources d'inspiration, de comment trouver un sujet qui va résonner avec son audience, du syndrome de l'imposteur ou un excès de modestie, et de l'intelligence artificielle qui menacerait ou pas le travail des artistes. Oui, cette conversation va dans tous les sens et c'est ce que je préfère. Samia m'a donné la réponse la plus atypique, mais la plus réaliste à la question emblématique de la zone. Vous allez voir. Et en prime, elle nous donne ses meilleures recommandations de livres et de podcasts. C'est cadeau. Je sais que t'as un rapport qui est particulier à l'écriture. Bon, t'étais en L, t'as fait Hippocane, Cannes, enfin bref, 3 années de prépa, tu voulais être journaliste de presse écrite avant. Puis tu travailles sur un premier roman.
Oui, ah génial, je suis contente que tu m'en parles. J'aime tellement en parler, on en parle jamais. Non, mais je laisse continuer ta question, puis on pourra y revenir. Non, mais vas-y.
On va y revenir, t'inquiète pas. C'est dans mes notes.
Ok, super.
Est-ce que t'avais un journal intime?
Alors, oui, pas un journal intime, des journaux intimes. Alors ça, je ne sais pas combien j'en ai eu. J'ai toujours énormément écrit. Déjà, avant d'avoir un journal intime, j'écrivais des histoires. Je pense probablement pas génial, hein, vraiment pas du tout. Même si, je crois que je l'ai raconté dans un podcast, que je pensais que je serais la plus jeune, mais je ne sais plus si on l'a gardé au montage. Peut-être que c'était dans une époque formidable et qu'on ne l'a pas gardé, je ne sais plus. Je pensais que je serais la plus jeune écrivaine de l'histoire.
En mode fight again, quoi.
Ah ouais, c'est ça, exact. Non mais attends, mais plus jeune encore. Ah non, mais moi, en primaire, je pensais que je serais éditée. Non mais n'importe quoi, la meuf. Ah ouais, beaucoup plus jeune. J'étais vraiment... non mais bref. Donc déjà, j'écrivais beaucoup de bases. Et après, journaux intimes. Et alors, un truc qui m'éclatait aussi, c'était les rédactions à l'école. Mais ça, au collège,
J'aimais trop. C'était mon truc préféré. Mais c'est génial. Pareil.
Franchement, j'étais pas excellente dans beaucoup de choses, mais juste là, vraiment les rédactions, j'étais excellente et je le dis parce que je suis pas excellente dans toutes les matières, loin de là. Mais ça, vraiment, non, si, c'est super pourquoi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je trouve que j'ai moins d'imagination et c'est pour ça que les gens qui font de la fiction m'impressionnent. Donc, mon copain slash ex, soon to be ex, et dans le cinéma, plutôt dans la fiction, et je trouve ça impressionnant, vraiment, d'inventer des choses. Et même, il y a des gens qui font du podcast, hein, et qui font de la fiction, de la radio aussi, en fiction. C'est fascinant pour moi. J'ai l'impression, ce truc-là. Je suis en train de digresser énormément.
Non, mais c'est pas grave, honnêtement. Okay. J'adore cette conversation. Honnêtement. C'est pas grave. Je ferai deux parties. En ce moment, je fais que ça, des conversations en deux parties. Donc, on a le temps. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que moi aussi, ça me fascine les créatifs. Et c'est aussi pour ça que je fais ce podcast-là.
Bien sûr.
Et je pense que la différence entre des personnes qui ont une imagination débordante et les autres qui ont aussi une imagination mais qui l'exploitent pas, c'est que on sature notre cerveau.
Ouais.
Et donc en fait, on a pas le temps de rien faire. Et je pense que des personnes qui savent rêver éveillé, c'est comme on le faisait enfant, et qui arrivent à redécouvrir le plaisir du jeu aussi, comme quand on était enfant, c'est qu'on jouait. On est genre trois copines à New York et
Mais t'as raison, hein. Non, mais t'as tout à fait raison parce que, je sais pas s'il y a que ça qui joue, mais par exemple, en l'occurrence, je reprends l'exemple de mon mec, hein, qui, je dis pas qu'il se pose aucune question dans la vie et qu'il a pas un cerveau aussi saturé de choses, mais Il est moins en train de ruminer comme moi, de se poser 1000 questions tout le temps. Et donc peut-être qu'il a plus d'espace. Et cette idée de jeu aussi, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que justement, lui travaille toujours avec des co-auteurs et des co-autrices. Et donc, il y a une sorte de ping-pong. Donc, il y en a un qui va dire un truc, l'autre qui va rebondir, exactement comme quand on joue à la Barbie avec d'autres personnes. Et que du coup, il y en a une qui va créer une situation et l'autre va faire un truc à partir de là. Et bien, c'est exactement pareil. Donc, je pense que ces deux choses-là que tu mentionnes, ça joue énormément. Après, il y a peut-être des gens qui vont dire, bah non, mais moi, je suis pas comme ça. Moi, j'ai énormément d'imagination, alors que pourtant, j'ai un cerveau ultra saturé. Je sais pas. Mais c'est vrai que des fois, j'ai l'impression justement d'être trop ancrée dans le réel parce qu'il y a trop de choses qui me font ruminer et que bah ça me laisse pas assez d'espace pour imaginer d'autres choses. Enfin ouais, mm-hmm. c'est fou.
Mais tu travailles quand même sur ton premier roman, donc c'est une fiction.
Oui, et alors c'est une fiction. Il y a plein de choses qui font que quand même le personnage principal me ressemble beaucoup parce que c'est ça, tu vois aussi. C'est marrant. Il y a Violette Le Duc. Je sais pas si tu connais Violette Le Duc, je ne veux pas du tout me comparer à elle, hein, loin de là. Violette Le Duc, c'était une autrice exceptionnelle, enfin une écrivaine vraiment géniale, qui, pour le coup, n'a pas fait d'études, qui a une écriture très particulière, et justement, elle n'a pas une écriture du tout formatée. Et elle était complètement folle amoureuse de Simone de Beauvoir, ce qui n'était pas réciproque, mais Simone de Beauvoir l'a énormément aidée à se faire éditer. Elle a vraiment poussé. Elle a écrit, il me semble, l'avant-propos d'un de ses livres, de son premier livre, La Bâtarde. C'est génial. Donc, et en fait, Violette Le Duc écrit des romans, mais des romans vraiment autobiographiques. Écrivait. Elle est morte. Des romans autobiographiques. Et c'était... Je sais pas comment dire. C'était des fictions, mais vraiment inspirées de la réalité, comme plein de gens le font. Et elle disait à un moment donné, j'avais vu en interview, j'ai trouvé une interview d'elle sur YouTube en noir et blanc, un vieux truc, tu vois, où elle dit, où quelqu'un lui dit, mais comment vous faites pour écrire des livres comme ça avec autant d'imagination? Et là, elle dit, mais moi justement, je trouve que je n'ai aucune imagination, puisqu'en fait, tout vient du réel, quoi. Tout ce que j'écris vient du réel, donc je me trouve pas si compétente que ça. Enfin, extraordinaire comme écrivaine, mais bon, elle se trouve pas très compétente. Écoute, voilà. Hein. C'est comme si Annie Ernaux, qui elle-même a écrit beaucoup de choses inspirées de sa vie, c'est comme si elle disait, oh, pas GG quand même, hein. J'aurais pu inventer autre chose, tu vois. Et donc je pense à ça, mais c'est pas du tout que je me compare avec Le Duc, mais en fait, il y a des gens qui sont des gens qui inventent des fictions complètes, des choses qui n'ont rien à voir avec leur vie. Et il y en a d'autres qui s'inspirent beaucoup de leur vie. Et moi, c'est un peu le cas pour ce livre-là, même si je me suis rendu compte quand même qu'à force... Donc ça parle d'une histoire d'amour, hein, sans blague.
On s'en serait douté.
Voilà. Mais il y a plein d'éléments que j'ai empruntés de ma vie, mais il y a aussi plein d'éléments que j'ai inventés. Parce que je me rends compte aussi que ma vie, elle était très intéressante pour moi, mais en soi, il y a plein de choses qui ne sont pas intéressantes à transposer dans un livre. Il faut leur donner une envergure plus importante, il faut dramatiser certaines situations. Et donc là, je vais inventer des choses, je vais forcer le trait parfois, il ne faut pas que ce soit trop non plus. Et surtout, j'écris un livre drôle, en tout cas qui veut être drôle. Est-ce que c'est un pari réussi?
Ça match complètement avec ta personnalité.
Ah bah voilà, bah, je suis contente que tu le dises, parce que des fois, je trouve que c'est dur dans le podcast de faire ressortir... Moi, honnêtement, c'est pas du tout pour jeter des fleurs. Je pense que je suis quelqu'un de drôle dans la vie, mais je trouve que c'est très difficile de le faire ressortir dans les podcasts, dans les vidéos, etc. C'est complètement autre chose. En tout cas, dans le livre, on a plus de temps pour se poser, pour justement écrire tout ça. Donc, j'essaye de trouver des petites punchlines, des choses comme ça. Et c'est censé être un livre vraiment léger et drôle, mais qui en même temps parle de sujets quand même un peu plus profonds. Mais il y a deux choses qui m'aident vraiment à écrire. C'est donc déjà de tirer... des choses de la réalité, que ce soit moi ou des personnes qui m'entourent. Il y a plein de personnages autour de moi, enfin de personnes, tu vois, que j'appelle personnages parce qu'elles m'inspirent. Et puis la deuxième chose, c'est pour moi que j'écris un livre très léger, pas prise de tête, c'est pas un livre pour le prix Renaudot, tu vois, par exemple. Ouais, c'est pas un livre qui se veut un objet littéraire extraordinaire, et donc ça enlève énormément de pression. Et donc, ça fait aussi que j'ai plus d'espace, des fois, pour imaginer des choses, des scènes, parce que je me dis, oui, j'écris un livre dont je suis fière et dont je serai fière, mais en fait, c'est pas comme si j'avais essayé de faire des très, très belles phrases et des choses comme ça. Donc, ça aide.
Tu te prends pas au sérieux, t'as envie de raconter une histoire, et surtout, tu penses pas à un certain public.
Exactement.
Ou, tu vois, à l'Académie française qui va lire ton roman ou quoi.
Et surtout pas l'Académie française, en plus de toutes les enfants.
Ouais, non, c'est clair. Mais ça me fait penser à... Est-ce que tu... Enfin, j'imagine, parce que bon, tout le monde la connaît, Pénélope Boeuf.
Ouais, bien sûr.
La façon dont elle raconte ses histoires, ouais. Tu vois, notamment avec l'arnaque,
ouais.
Où elle raconte vraiment des épisodes de sa vie. C'est un ouais. format ultra court, ça dure 5 minutes. Elle maîtrise vraiment, pour le coup, extrêmement bien le storytelling. Et donc, je te demandais, est-ce que toi, tu as pensé à ce format-là, ou du moins faire une fiction audio?
Alors, honnêtement, pas du tout. Un jour, peut-être une fiction audio, mais pas comme ça. Non pas que ce soit une critique, hein, c'est juste que c'est moins mon truc. J'ai écouté déjà peu de fictions audio qui m'ont vraiment convaincue. Et ça va faire snob, mais les quelques-unes que j'ai vraiment aimées, pas que, hein, il y en a d'autres, mais en français. Mais la plupart que j'ai vraiment aimées, c'est des productions en anglais, et notamment canadiennes. Il y a Caitlin Prest, qui est pour moi le génie de la fiction audio, une femme extraordinaire, qui a créé un studio qui s'appelle Mermaid Palace, mais qui, avant de le créer, faisait déjà énormément de fiction audio, et notamment pour, je crois, CBC, un réseau canadien de radio. Une des fictions que j'ai adorées, c'est The Shadows. Et ça parle, justement, d'amour, et ça parle d'une relation amoureuse jusqu'à la rupture. Et c'est tellement bien écrit, tellement bien joué, tellement bien enregistré. On a l'impression qu'on assiste vraiment pour le coup à un documentaire. On a l'impression que tout est réel. C'est impressionnant. C'est tellement bien fait. Enfin bref. Et en même temps, c'est mieux que la réalité parce que il y a un scénario, quoi. C'est extraordinaire. Et donc, un jour, j'aimerais tellement faire quelque chose de ce niveau-là. Mais. Et puis, autant qu'à faire parler d'amour, pour changer. Mais honnêtement. Honnêtement, je trouve que ouais, c'est pas encore dans mes cordes. C'est tellement dur de pas sonner ringard, de pas sonner
ouais,
fake,
ou
kitsch, ouais. Et c'est tellement, tellement compliqué que. Mais peut-être un jour. Le truc aussi, c'est que, et je suis pas la seule à penser ça, je consomme beaucoup plus de fiction en série cinéma que de documentaire. Et inversement pour le podcast, je préfère le réel à la fiction. Et en fait, c'est un peu ce que disent les statistiques en général. Hein. Les gens préfèrent le réel quand c'est de l'audio, je ne sais pas pourquoi. Et la fiction quand c'est de l'image. Et je ne saurais pas l'expliquer, mais je suis un petit peu dans ce truc-là.
Je ne sais pas, peut-être parce que l'image va nous donner beaucoup plus d'émotions en termes de fiction. Peut-être que ça va plus nous connecter grâce à l'image, alors que le son, étant donné qu'on sait déjà que ça va être des histoires vraies, ben, ça rend juste le récit plus intimiste parce que bah, on est dans les oreilles et on peut imaginer quelque chose. Enfin,
t'as raison.
Dans les deux cas, il y a une part part d'imaginaire mais qui se développe différemment.
Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a ça doit vachement jouer effectivement parce que on a le récit directement au creux de l'oreille, on a la voix telle qu'elle a été enregistrée. Enfin, il y a quelque chose de très fort. Alors que à l'image, on perd toujours une dimension. Puisqu'on passe de la 3D à la 2D, donc c'est pas la même chose. Et donc, peut-être que dans ces cas-là, c'est plus acceptable de regarder une fiction, alors que le documentaire, on rentrerait moins dedans, je sais pas. Ça joue. Il y a aussi le fait que les podcasts qui ont vraiment cartonné ont toujours été des documentaires. Si tu prends les Américains, etc. Et peut-être qu'aussi, même en France, hein, finalement, ce qui marche le mieux, c'est ça, le réel. Et peut-être que c'est une habitude qui a été prise. Peut-être aussi que c'est ça, tu vois, et qu'on a l'oreille peu aguerrie, même si je connais plein de gens qui écoutent des fictions audio, et c'est peut-être ton cas, toi, d'ailleurs, je sais pas.
Bah, j'en écoute quelques-unes, mais j'avoue que j'ai pas encore trouvé la fiction audio, je me suis dit, waouh, c'est incroyable, tu vois.
Ok. Ben, écoute, essaye The Shadows, et en plus, c'est canadien, si t'as l'occasion, alors l'interview aura lieu en anglais, mais franchement, si t'as l'occasion d'interviewer Caitlin Prest, c'est un génie sur Terre, un génie sur Terre, vraiment.
Tout à l'heure, tu parlais de Violette Leduc qui minimisait un peu son talent. Et t'en avais parlé, je sais plus trop dans quel podcast, que t'échappais pas trop au syndrome de l'imposteur.
Ouais, c'est clair.
Et j'ai une théorie là-dessus.
Ah,
parce que bon, au final, tu vois là, quand je t'entends parler, t'arrives quand même à reconnaître tes talents, tu sais que t'es douée dans certaines choses. Et d'ailleurs, ça m'a étonnée parce que, étonnée de la bonne. C'est positivement que dans Damien, l'école et la colère, tu t'es tout de suite présenté comme étant journaliste.
Ah,
donc, t'as quand même bâti un certain sentiment de légitimité tout en étant complètement autodidacte dans ton apprentissage de comment faire un reportage, comment faire un documentaire, etc. Et donc, ma théorie, qui en fait n'est pas vraiment ma théorie, j'étais à une conférence il n'y a pas longtemps.
Okay.
Et il y a une femme noire qui est... alors, je ne me rappelle plus son nom. ça la fout mal. Je vais quand même écouter parler pendant une heure.
Tu mettras un petit enfer.
Ouais, voilà.
Personne ne s'en rendra compte.
Maître Mouélé, je crois, c'est ça son nom de famille, je ne me rappelle plus de son prénom.
Ok, bon, déjà, ta famille, c'est pas mal.
Ouais, voilà. Et donc, en fait, elle est la première présidente du conseil de la ville à Montréal et c'est une femme noire. Okay. Et en fait, elle a parlé un peu de ce truc qui est différent du syndrome de l'imposteur, parce qu'en fait, on sait reconnaître nos forces, nos compétences, nos talents, mais par excès d'humilité ou, tu vois, ou de surmodestie, qui n'est pas voulu, hein, c'est même pas genre arrogant ou quoi, ben, en fait, on va se faire un peu... plus petite qu'on est en réalité, qu'on va minimiser ses talents, mais pas parce que on
les voit
se sent pas. Ouais, c'est ça, pas parce qu'on ne les voit pas, mais vraiment parce qu'on n'a pas envie que en face les personnes nous pensent qu'on est arrogante ou que tu vois ou qu'on se vante, etc. Et je me demande si ce serait pas aussi un peu ton cas et comment t'as fait surtout. Pour te vendre et te faire connaître. Parce que moi, c'est quelque chose qui est difficile pour moi. J'ai une amie qui n'arrête pas de me dire « Mais parle de la zone à tout le monde
!» Tu vois,
et je suis un peu genre « Ouais, enfin... »
Et toi, t'oses pas trop.
Ouais, non, j'ose pas trop. Tu vois, elle me dit « Mais c'est extraordinaire la façon dont t'interviews les gens. »
Oui.
Et même encore là, quand je le dis, j'ai peur que les personnes qui m'écoutent se disent « Non, mais pour qui elle se prend ?» C'est pas Oprah Winfrey.
Non, mais on est pareil. On est pareil. Tu vois, moi, tout à l'heure, quand j'ai dit « En plus, je me trouve drôle dans la vie », je me suis dit en même temps dans ma tête « Oh là là, mon Dieu, mais les gens, ils vont dire « Oui, ça va, t'es pas Blanche Gardin, on se calme tout de suite. » Tu vois, en fait, c'est exactement ça. Et en fait, on peut plus rien dire aujourd'hui parce que... Non, mais pas dans le sens... Attention, hein. Pas dans le sens Zemmour. Attention. Mais je veux dire... si tu dis par exemple je me trouve drôle ou je me trouve compétente, on a l'impression, les gens entendent la personne la plus douée de la terre, enfin, mais non, en fait, par exemple tu peux dire que t'es une bonne intervieweuse, bon, t'es pas Oprah, t'es pas, bon, d'accord, mais tu restes une bonne intervieweuse, tu vois ce que je veux dire. Et voilà. Et alors je suis hyper intéressant ta théorie. Moi c'est marrant, j'ai un syndrome de l'imposteur, mais pas comme toi. Pas dans le sens où je n'ose pas parler de mes productions, je n'ose pas même, par exemple, tu vois, là, je suis dans une recherche de sponsor pour la Chamade. Eh ben, j'y vais à fond, j'écris à des marques hyper réputées et j'ai pas peur, en fait, de ça. Ça me fait pas peur du tout. Par contre, si jamais une marque me disait oui, allons-y, là, je me dirais, mais oh, qu'est-ce que j'ai fait ? Les gens, ils vont se rendre compte qu'en fait, je suis une imposture totale, que je ne sais pas faire un podcast de qualité, qu'ils vont regretter, vraiment. Et donc, ça va être plutôt ce genre de truc, c'est plutôt a posteriori. Mais ça ne m'a jamais empêché de faire des choses. Sinon, je pense que voilà, je ne ferais pas du podcast aujourd'hui, encore plus de façon professionnelle. Et voilà. Mais par contre, je me dis toujours qu'à chaque fois qu'un pitch de podcast est accepté par un producteur, mais c'était une énorme erreur, ils vont se rendre compte que c'était vraiment... fallait pas miser sur moi. Et d'ailleurs, en plus, après, derrière chaque difficulté, parce que forcément, par exemple, Damien, sur 2 ans de travail, il y en a eu des difficultés. Hein. Et à chaque fois, je me dis, ça y est, là, ils vont se rendre compte qu'en fait, il fallait pas miser sur moi. Il fallait pas signer ce contrat. Et donc, c'est plutôt là-dedans que ça se manifeste. Pas comme toi, où toi, c'est vraiment d'emblée, dès le départ. Et ce que tu dis me fait penser plutôt à carrément de l'auto-sabotage, ce qu'on appelle de l'auto-sabotage. J'avais entendu ça dans un podcast où une fille disait qu'elle avait, je crois, tellement peur d'être recalée quelque part qu'elle avait même pas passé un entretien. Et en fait, alors peut-être t'es pas comme ça non plus, je sais pas, peut-être pas à ce point, mais en tout cas, tu n'oses même pas parler de ton podcast. Et donc finalement, tu t'auto-sabotes, entre guillemets. Enfin, c'est toute proportion gardée. Mais c'est peut-être ça. Et moi, j'ai jamais été comme ça. Ou bien, t'as une bonne... De toute façon, ça remonte à l'enfance. T'as une bonne note. Moi, ça a toujours été comme ça. C'est pourquoi est-ce qu'on m'a donné une bonne note ? Parce que le prof a été sympa. Alors que si on m'a donné une mauvaise note, c'est parce que c'était mérité. Donc voilà. Mais il y a tellement de gens qui ressentent ça que je pense que c'est ultra répandu. Hein.
Ouais. Mais oui, ouais, en fait, c'est vraiment un syndrome de l'imposteur. Moi, je sais recevoir les bonnes critiques et les bonnes notes, etc. Mais c'est plus la manière dont je vais me vendre. Par exemple, je travaille en production. Je travaille au service juridique d'une boîte de production, notamment télé.
Génial.
Et en fait, ma boss a parlé à des producteurs, en fait, à des collègues de mon podcast. Et je suis genre, mais pourquoi elle a fait ça? Tu vois, et elle me dit, mais vas-y, tu vois, parle-leur, pitch-leur ton projet, etc. Ouais. Puis là, en plus, ils ont ouvert une section podcast. Qui me dit, mais vas-y. Tu vois. Et en fait, je dis, mais enfin, moi, je suis personne. Oh. Tu vois, j'ai bricolé quelque chose. Je peux pas. J'ai cette peur-là de sembler arrogante avec mon projet.
Ouais.
Tu vois.
Ah,
et
non,
c'est
mais
cet
ça,
excès,
ouais.
C'est cet excès d'humilité-là.
Mais oui, là, c'est un excès d'humilité, en effet, parce que... Ah non, non, mais ça, je comprends pas. Enfin, parce que je comprends pas, parce que moi, je suis pas comme ça. Mais moi, je me dirais au contraire, je me dirais, mais là, ils vont aller produire des gens, et c'est pas... Et moi, non. Enfin, tu vois qu'ils produisent d'autres gens, pourquoi pas. Mais moi, je vais être dans le panier, tu vois. Donc moi, j'irais, mais 1000 fois. Ouais, non, toi, c'est encore autre chose. Mais fonce, là, vraiment, moi, je te dis, fonce, fonce, fonce. Vas-y, allez, vraiment, ne t'écoute pas, fonce. Vraiment. Au pire, on te dit non. Après, ça dépend de ta capacité à encaisser le rejet. Et finalement, moi, je me rends compte que j'ai toujours peur du rejet, mais je l'encaisse finalement pas trop mal. Enfin, mes projets ont été rejetés plein de fois par Arte Radio avant qu'un studio accepte de me pitch. Enfin, encore une fois, Sciences Po raté avant de le réussir. Et finalement, je pense que j'ai suffisamment d'ego pour me dire ça va marcher peut-être la prochaine fois, mais pas trop d'ego non plus pour peut-être ne pas être complètement anéanti par un rejet.
Comment est-ce que tu trouves tes idées? J'ai vu là sur Instagram que tu cherches des témoignages pour des personnes qui sont devenues addictes aux opioïdes après une
Waouh,
prescription de
c'est de la
médecin.
fraîcheur de la news parce que vraiment je l'ai posté il y a quelques heures.
Ouais, je sais.
Ah, j'adore. En fait, oui, honnêtement, je trouve que je suis pas quelqu'un de très prolifique en termes d'idées. Vraiment, j'ai pas énormément d'idées à la minute. Il y en a qui sont comme ça. Moi, non. Je pense pas. Je pense que bien sûr, au bout d'un moment, à force de faire ça pendant quelques temps, on arrive à trouver des bonnes histoires, des choses comme ça, avoir des idées. Mais j'ai pas 1000 idées à la minute. Loin de là. Ça me vient pas très facilement. Là, les opioïdes. Moi, j'écoute le Daily beaucoup du New York Times. Aujourd'hui, j'écoutais celui qui est sorti hier. Et c'était sur la crise des opioïdes aux États-Unis, encore une fois. Mais là, c'est sur un médicament qui a été autorisé pour une vente sans prescription. Et qui, enfin, c'est un spray nasal, en fait, pour les personnes qui font une overdose d'opioïdes. Et donc, n'importe qui, à partir de maintenant, peut se le procurer aux États-Unis. Et donc, c'est intéressant. La journaliste disait aussi qu'il y avait quand même toujours des difficultés d'accès, notamment le prix. Parce que ça va coûter à peu près 45 $, que si ça coûte aussi cher, ça va pas être finalement derrière un truc en verre, tu vois, verrouillé. Et donc il faudra quand même demander à un pharmacien de l'ouvrir. Donc il y a quand même ce truc-là, on n'a pas envie d'être stigmatisé. Enfin, il y a toutes ces questions-là qui se posent. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que c'est un truc qui se pose à la fois si toi, par exemple, tu es sujet à une addiction comme ça, mais même en tant que citoyen, citoyenne. On pourrait tous avoir ce spray nasal sur soi et l'administrer à quelqu'un si on voit quelqu'un dans la rue, donc notamment aux États-Unis où c'est très répandu et dans certaines zones. Et bref, donc je me suis dit, tiens, j'ai écouté ce podcast, je me suis dit, tiens, qu'en est-il en France? Et je vois que c'est autorisé depuis des années en France, depuis des années, c'est disponible. Ce spray nasal, il a un autre nom qu'en anglais, mais il est autorisé depuis longtemps. Je me suis dit, mais c'est fou, on n'en parle pas. Et d'un coup, je me suis dit, tiens, alors qu'en est-il des opioïdes en France? Et je regarde un petit peu. Et c'est marrant, je trouve des trucs très contradictoires. En fait, bien sûr qu'on n'est pas du tout au niveau des États-Unis, mais il y a des articles qui sont à la fois rassurants en disant non, mais nous, avec notre système de santé en France, c'est pas comme aux États-Unis, il y a beaucoup plus de garde-fous, il y a beaucoup plus de choses comme ça. Donc, on n'est pas du tout au niveau des États-Unis. Et c'est vrai. Mais en même temps, tous les articles montrent quand même que d'année en année, ça augmente. Il y a une progression quand même pas négligeable et que c'est quand même surveillé, tu vois, par les autorités. Donc je me dis, c'est bizarre. Qu'en est-il? Qu'en est-il? On a tous eu des prescriptions d'antidouleurs quand on a été opéré, pour des gens qui ont des douleurs chroniques aussi. Mais de base, si tu as été opéré au moins une fois, tu as eu des antidouleurs. Et c'est ultra intéressant pour moi de voir à quel point c'est facilement prescrit et derrière, il n'y a aucun suivi. Moi, on m'a jamais demandé. Quand j'ai été sous tramadol, est-ce que vous avez déjà eu une addiction dans votre vie à une drogue, à de l'alcool, à des choses? Rien de tout ça, mais rien. Et donc, je me suis dit, OK, est-ce que c'est le cas de plein d'autres gens qui déjà peut-être ont été addicts ou alors qui vont le devenir pour la première fois de leur vie avec ce truc-là? Et oui, en fait, oui, c'est le cas puisqu'il y a des articles qui en parlent, mais de façon très mijaurée encore. Et je pense qu'il y a toujours ce truc, comme sur plein de sujets, de dire « Oh, regardez les Américains, oh là là, mon Dieu, ils font tout mal. Américains, bouh, alors que nous, c'est super. » Et je pense que non. Je pense qu'il y a un truc à creuser, même si c'est pas de l'ampleur de ce qui se passe aux États-Unis, il y a un truc à creuser en France. Et donc, je n'approche pas tout de suite un studio en disant « Ah, je voudrais faire un truc sur les opioïdes, d'accord, mais quoi, qui, quelle histoire ?» Donc, je commence toujours par chercher des témoignages. Exactement. Voir s'il y a une histoire qui sera intéressante à creuser à partir de là. Par exemple, aussi, j'ai un ami qui est préparateur en pharmacie. Et donc, lui, il voit aussi les prescriptions d'antidouleurs qui augmentent, les gens qui reviennent régulièrement. Bref. Et donc, il y a des choses comme ça que je peux aller chercher et tirer un peu des fils et voir si c'est pertinent, si je trouve une bonne histoire et ensuite remonter. Mais au départ, il faut partir pour moi d'un témoignage d'une personne dépendante, pour moi, c'est le premier fil à tirer.
Selon toi, est-ce que c'est comme ça que tu jauges si un projet qui nous plaît, tu vois, qui a une résonance avec nous, va aussi avoir une résonance avec le public? Parce que j'ai souvent été, tu vois, je suis passée par là aussi en parlant avec d'autres créatrices de podcasts ou même de vidéos, que nous, on aime ce qu'on fait, on trouve que c'est de qualité, on trouve que c'est beau aussi, puis on pense que ça va plaire, puis au final, ça a aucune résonance avec le public ou très peu.
Ouais. Alors déjà, résonance, il y a deux choses. Parce que la résonance, ça peut être quelqu'un a écouté et ne s'est pas reconnu dedans. Mais la plupart du temps, quand il n'y a pas de résonance, c'est qu'en fait, personne n'a découvert ton podcast. Personne n'est tombé dessus, en fait. Donc pour moi, ça, c'est plus un truc de com, plus que de résonance. Après, bien sûr qu'il y a peut-être des podcasts qu'on va écouter, on va se dire, au final, je ne me suis pas du tout connectée à cette histoire, je n'ai pas relate, comme tu dis, je ne me suis pas identifiée à ce personnage, c'est possible. Déjà, de base, pour ça, c'est toujours se dire quelle est la grande histoire derrière la petite histoire. Par exemple, moi, je raconte l'histoire de Damien, donc dans Damien, l'école et la colère. Un enfant atypique qui a des troubles du comportement et on se pose la question de où le mettre en sixième. C'était pas mon cas déjà, par exemple. Moi, j'étais pas comme ça. Par contre, dans ma classe, j'ai toujours eu, tous les ans, des enfants qu'on disait turbulents, qui s'agitaient, etc., qui parfois provoquaient. Les troubles du comportement, a priori, on en a tous vu. Ou alors, on peut avoir quelqu'un dans sa famille, etc. Mais parfois même, c'est juste quelqu'un qu'on a croisé dans notre vie. Et donc, là, ça va être... tu vois, quand je parle de Damien, je dis on a tous eu quelqu'un dans notre classe qui était comme ça. Et d'ailleurs, il y a plein de gens derrière qui m'ont écrit pour me dire mais c'est marrant, j'ai pensé d'un coup à tel ancien camarade de classe, telle ancienne camarade de classe, etc. Donc c'est toujours aller chercher la grande histoire derrière la petite. Et puis la grande histoire, c'était aussi cette histoire d'inclusion. Et là, c'est un sujet d'inclusion dans les écoles publiques, de ces élèves atypiques. Et donc là, on est sur un sujet qui est vraiment un sujet d'intérêt public. Parce que l'école, et ça censé être une école pour tous, on parle vraiment d'écoles par lesquelles la majorité des gens sont passés. Donc, tout le monde peut relate à un moment. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Alors que si l'histoire, c'était juste Damien, c'est un enfant atypique qui est dans une école primaire absolument géniale, où les profs font beaucoup pour lui, les maîtresses, la directrice, ils sont super, et c'est génial. Bon, déjà, premièrement, c'est pas une histoire. Et deuxièmement, tu vois, c'est juste une situation, quoi. Et deuxièmement, les gens vont dire, oui, très bien, mais moi, j'ai pas d'école comme ça, je sais pas, je suis pas passée par une école comme ça. Et en fait, non, j'essaie de prendre en montrant aussi qu'il y avait des erreurs chez les personnes qui voudraient bien faire, parce que là, plein de gens s'identifient à ça. J'ai reçu plein de messages d'enseignants, c'est fou, justement, qu'ils se reconnaissaient là-dedans. Toujours chercher la grande histoire derrière la petite histoire. Sinon, on est dans le registre de l'anecdote, de l'anecdotique.
C'est ça, si tu racontes pas les conflits et les enjeux qu'il y a derrière ton histoire, c'est plus une histoire finalement.
C'est ça, exactement. Et donc, par exemple, j'en sais rien, moi... il y a un podcast que je fais beaucoup, beaucoup écouter en formation. C'est le tout, tout, tout premier épisode de Transfert de Slate.fr. Un podcast d'histoire vraie.
Est-ce que c'était le gars qui espionnait ses voisins?
Exactement. Et donc là, tout le monde me dit, mais il est fou, quoi. Et à chaque fois, donc, je fais d'abord écouter le début et les gens disent, mais il est complètement dingue, ce mec. Franchement, moi, jamais de la vie, je ferais ça. D'accord. Et après, je fais écouter la suite où le gars, il dit, Mais en fait, moi, ce que je vais toujours trouver absurde dans l'architecture de nos villes, c'est qu'on vit si près les uns des autres, mais vraiment, si les murs tombaient, on verrait qu'on est à un mètre même pas de son voisin. Et pour autant, on ne se dit pas bonjour, on ne sait même pas comment on s'appelle, on ne se parle pas. Et là, tout le monde peut relate, en tout cas tous les citadins et citadines. Vraiment, ça fait un paquet de gens. Et donc, oui, bien sûr qu'on ne ferait pas ce qu'il fait a priori, encore qu'on peut avoir des fois, tu vois, un stalk sur Internet, enfin, on peut avoir des biais comme ça. Lui, c'est un point... C'est ça qui fait que c'est une histoire aussi intéressante, c'est qu'il va beaucoup, beaucoup plus loin que la commun des mortels. Mais
ça devient une obsession.
Ça devient une obsession, et c'est ça qui est intéressant, c'est ça l'effet dramatique. Mais derrière, il y a ce truc auquel on peut tous s'identifier de base, de bah oui, quand on est citadin, citadine, c'est notre cas à tous finalement, de vivre à côté de nos voisins sans savoir qui ils sont. Voilà.
Ah ouais, merci pour la masterclass gratuite.
Attends, bien sûr, je dis ça parce que honnêtement, moi aussi, j'ai bénéficié d'énormément de masterclass, de trucs à droite à gauche. Et d'ailleurs, là, je recommande, désolé, encore une reco en anglais, mais les Américains sont tellement doués,
bon,
que voulez-vous,
grave.
Voilà. non, c'est une reco géniale, c'est... Gimlet Academy, donc Gimlet Media aux États-Unis, qui est un studio de podcast qui a été racheté par Spotify et qui avait publié Gimlet Academy, je pense que c'était 5 épisodes, et à chaque fois c'est des personnes de Gimlet qui racontent comment ils font leur podcast, et à chaque fois c'est sous un angle particulier. Le tout premier épisode, c'est qu'est-ce qu'un bon pitch, et dedans Alex Blomberg, qui a créé Gimlet Media, explique qu'un bon pitch, effectivement, c'est entre autres alors il y a des bons personnages, une bonne histoire, mais voilà aussi comment est-ce que ça se connecte à une plus grande histoire. Tout ce que je dis là, je ne l'ai pas inventé, et moi aussi j'ai bénéficié des conseils de personnes très très compétentes.
Non mais merci pour la reco, parce que tout ce que tu me dis par rapport au storytelling, ouais, ça a aidé moi, mais je pense que ça va aider aussi d'autres créateurs aussi, les quelques hommes qui nous écoutent aussi, parce que je pense que quand on aime créer, en fait c'est parce qu'on aime d'abord raconter quelque chose.
Tout à fait, effectivement.
Tout à l'heure, je parlais du podcast Une époque formidable que tu co-animes. Donc, vous parlez avec une invitée des tendances de la société, depuis les Pick Me Girls à la Slow Life, en passant par l'Arab Fishing, mais aussi les intelligences artificielles qui vont simuler des relations amoureuses virtuelles qu'on peut entretenir avec elles. Donc, bref, moi, c'est des sujets qui m'intéressent aussi particulièrement. Et en ce moment, justement, il y a des gros débats sur la pertinence des artistes et des créateurs avec les avancées de l'intelligence artificielle et les capacités folles qu'on découvre chaque jour, de l'AI, ChatGPT, etc. Est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu penses de ça ? Et est-ce que tu penses que ton métier pourrait être mis en péril un jour par l'intelligence artificielle ?
Alors déjà, moi j'utilise l'intelligence artificielle pour un truc déjà de base, qui est la transcription des interviews. Donc de base, ça c'est un premier outil qui est ultra important, et c'est de l'intelligence artificielle, puisque donc on soumet son fichier sur la plateforme et elle fait, en général il faut corriger. Je travaille sur des podcasts aussi en anglais, et en anglais franchement c'est hyper limpide, mais parce qu'il y a beaucoup de ressources, donc l'intelligence artificielle est plus performante, mais en français elle est quand même déjà assez performante, et donc ça fait gagner un temps fou, donc ça c'est bête, mais c'est de l'intelligence artificielle et ça aide beaucoup beaucoup dans le podcast et dans d'ailleurs d'autres types de médias. Et est-ce que je me sens menacée? J'avoue que c'est marrant, mais il y a 2-3 jours, j'ai appris, je n'ai pas vérifié l'info, on m'a dit que Google... attends, c'est quoi déjà l'histoire ? Google licencie sa team podcast, ou en tout cas une partie de sa team podcast, et va faire des podcasts par de l'intelligence artificielle. Je n'ai pas vérifié l'info, on me l'a sorti vraiment il y a 3 jours, un ami, donc à vérifier. Mais bon, alors ça fait un peu peur, en tout cas, voilà, peut-être qu'ils vont en revenir aussi, si c'est vraiment le cas. Je pense que ça fait un peu peur, mais on aura toujours envie d'écouter des humains et des humaines. En tout cas, j'ai du mal à croire. Tu crois pas ? En fait, je sais pas du tout. En fait, bien sûr que, par exemple, un scénario peut être aidé, facilité par une intelligence artificielle, j'imagine. Je sais pas. Pour l'instant, je suis un peu fascinée par tout ce qui se passe, comme plein de gens.
Moi aussi.
Voilà, c'est fascinant. On est en train de voir le truc se développer d'un jour sur l'autre, et c'est hyper flippant. Et en même temps, il y a des aspects positifs et d'autres où on sait juste pas où ça va aller. J'ai des amis qui ne veulent même pas en entendre parler tellement ça les angoisse. Vraiment, ça crée des angoisses très fortes.
Ouais,
et moi
aussi.
Non, au contraire. Toi, ça fait ça ?
Des amis. Qui m'en ont parlé aussi, alors que moi, pour l'instant, je suis ultra naïve et je me dis, mais c'est génial.
C'est ça. En tout cas, tout n'est pas génial, mais c'est fascinant et on a envie de lire des choses dessus. Moi, ça me passionne comme sujet. Et donc, ça passionne beaucoup Hervé qui fait pas mal de sujets là-dessus dans le podcast. Et donc, ouais, pour l'instant, je me sens pas menacée, même si voilà, j'ai entendu ce truc sur Google. Bon, cela dit, les podcasts Google, on n'a pas trop entendu. Enfin, tu vois, j'ai pas entendu un truc. Je m'inquiéterais le jour où Spotify, par exemple, aura encore l'intelligence artificielle ou des choses comme ça. Mais à voir, comme tout, hein, ça peut être aidé à, pour des bonnes choses. Peut-être. Peut-être pas non plus inventer des scénarios, mais peut-être aider sur certains points. Et puis, bah, ça peut être totalement hors de contrôle. Et dans ce cas, on se dirait qu'on n'a plus besoin d'humains, d'humaines. Mais j'ai du mal à croire ça. Je sais pas. Mais peut-être c'est moi qui suis trop naïve.
Bah, c'est vrai. Hein. Après tout, il y a 20 ans, on ne pensait pas que un jour, tu vois, ChatGPT pourrait avoir une conversation avec nous puis nous aider pour...
C'est clair.
Nos examens ou pour des travaux à rendre ou pour en tout cas.
Mais c'est ça. Alors honnêtement, je l'ai pas encore testé. Par contre, là, ce que j'ai testé, c'est pour j'ai un Patreon pour la chamade et donc je fais des épisodes bonus et avec Alex Blum justement qui est avec moi dans Une époque formidable, on a enregistré un épisode où j'ai demandé à l'intelligence artificielle de générer une histoire d'amour en lui donnant un pitch de base, donc en disant deux femmes qui tombent amoureuses, mais c'était quoi le truc? Voilà, il y en a une qui est en couple avec un homme et il faut qu'il y ait trois rebondissements et une fin surprenante. Et donc, il m'a proposé une histoire directe, quoi. Et franchement, le contrat était rempli. Tout ce que j'ai demandé y était. Ça avait du sens, mais ça restait, pour l'instant, extrêmement générique, quoi. On est vraiment sur
c'est basique,
un truc ouais, extrêmement basique, mais bah, on sait très bien que ça va devenir de plus en plus performant et tout, hein, donc ça, c'est sûr. Mais aujourd'hui, on se dit, bon... Enfin, remarque, d'un autre côté, c'est basique. Bon, ça fait un bon téléfilm aussi de l'après-midi. une bonne comédie Netflix romantique. Enfin, pour les trucs basiques, oui, ça, c'est sûr. Pour tout ce qui n'est pas extrêmement artistique, extrêmement complexe, c'est sûr qu'on peut se passer aujourd'hui de ces auteurs-là, c'est sûr. Ça, c'est sûr.
Ouais. T'as pensé à ce que t'aimerais faire si un jour la hype du podcast retombe complètement?
Intéressant, intéressant. Qu'est-ce que je... Alors, j'aimerais trop être édité et que mon livre marche, puisque comme on l'a dit au début, ça va pas forcément ensemble. Mais en tout cas, j'aimerais trop, moi, déjà en parallèle des podcasts, être écrivaine, vraiment officiellement, en vivre, en partie en tout cas. Et donc, je rêverais, mais là, on est sur... encore un autre rêve, encore plus inaccessible. Donc, imaginons que vraiment tout ça, ça n'existe pas. C'est marrant, mais récemment, je me suis dit, tiens, le boulot d'attaché de presse m'intéresse. Je sais pas, en tout cas, je suis curieuse parce que je suis en rapport beaucoup avec des attachés de presse pour Une époque formidable et La Chamade. Mmh. Et je me dis, alors pareil, je ne vois qu'un certain aspect du métier, mais je m'étais dit pour la première fois, tiens, si il n'y a plus de podcast, je pense que je pourrais m'intéresser à ce genre de métier. Mais peut-être que pas du tout, peut-être que ça manquerait de pas créer justement, et donc voilà. Mais idéalement, ça serait écrire des livres.
Moi aussi, encore quelque chose
en commun. Ah, toi aussi, de toute façon, tu fais un book club, donc on n'était pas très, on n'est pas très étonnés.
Mais, on est tellement basique,
Samia. Oui, ça. Non, mais, ou alors, on est vraiment justement une expérience de l'IA depuis le début. Et en fait, on était amenés à se rencontrer un jour.
C'est clair.
On est dans le Truman Show, tu sais.
Est-ce que tu as une recommandation de livre pour moi?
Alors, une recommandation de livre, oui. Alors, je suis désolée, je l'ai recommandé dans Une époque formidable, mais j'adore ce livre et c'est tout simple. C'est un livre américain, mais qui porte le même nom en français qu'en anglais. Donc voilà, ça s'appelle Heartburn. Donc c'est ultra drôle. L'écrivaine, c'est Nora Ephron. C'est celle qui a fait When Harry Met Sally, qui scénarise de plein de comédies romantiques. Qui est malheureusement décédée, pardon. Et c'est un livre génial sur une fiction très inspirée de la réalité, très, 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 très autobiographique. Les gens concernés le lui ont reproché d'ailleurs derrière. Elle a découvert à 7 mois de grossesse que son mari l'a trompée. Et en plus, ça se passe dans le milieu... le cercle très restreint de Washington. Donc moi, j'ai passé 2 ans à Washington, donc dans la politique de Washington, vraiment. Puisque donc, le vrai mari de Nora Ephron en question, c'est celui, le journaliste qui a révélé le Watergate. Et la maîtresse en question, c'était l'épouse de l'ambassadeur du Royaume-Uni à Washington.
Ah ok, donc on part pas sur l'anonymat.
Voilà, et donc quand elle a sorti le truc, je peux te dire que tout le monde était oh, « What ? C'est quoi cette histoire ?» Et franchement, il y en a qui n'étaient pas très contents, donc les personnes concernées notamment. Et donc, et c'est génial parce qu'elle en a fait un livre extrêmement drôle, génial, et en même temps, bah, aussi... Qui raconte une vraie tristesse de la rupture, enfin en tout cas qui est inéluctable, et en même temps, enfin c'est fou, elle est face à un mec qui on dirait un robot tellement il comprend rien ce qui se passe quoi, enfin il s'en fout complètement pratiquement, il est de toute façon il arrête pas de dire qu'il est amoureux de l'autre, enfin c'est horrible, elle est en train de vraiment mais souffrir, donc elle est à 7 mois de grossesse, elle a déjà un premier bébé avec cette personne là, non mais c'est horrible et en même temps c'est drôle, et ce qu'elle dit dans l'avant-propos. Parce qu'elle a fait un avant-propos qui a été publié des années plus tard. Le livre est sorti dans les années 80. Et donc, elle a publié un avant-propos en 2003. Et elle dit « On m'a reproché effectivement de m'être inspirée de la réalité. Déjà, c'est un reproche qu'on fait certainement plus aux femmes qu'aux hommes. Même les hommes, quand ils écrivent des fictions, s'inspirent de la réalité. Mais ça, on leur demande jamais. Mais bon, a priori, pourquoi pas ?» Et elle dit « Et d'ailleurs, de toute façon, c'est vrai pour mon cas. Mais... le fait d'avoir tourné un événement dramatique en livre comique, si ça, c'est pas de la fiction, je ne sais pas ce qu'est de la fiction. » Ah, oh, c'est tellement fort, je trouve ça génial, vraiment. Et je trouve que c'est excellent, quoi, c'est exactement ça. Donc, voilà, un livre qui se lit, mais très facilement. Et juste pour glisser notre co, parce que je peux pas... vite fait. Non, mais justement, d'autres livres qui se lisent comme des bonbons pour moi, et peut-être que tu vas être d'accord avec moi, c'est les livres de Colette, la série des Claudines. Claudine à l'école, Claudine en ménage, j'adore les noms, dirait Martine à la plage.
C'est clair.
mais c'est un régal. Colette raconte ses histoires. Enfin, c'est génial, c'est très, très inspiré de sa vie. Mais donc, la série des Claudines, oh là là. Formidable. Et du début du XXe siècle, mais alors d'une modernité incroyable. Génial, génial.
Deux dernières questions pour toi.
Oui.
La première, c'est de quoi est-ce que tu seras nostalgique d'ici quelques années ?
Oh, en plus, je suis quelqu'un de très nostalgique dans la vie. Moi, je suis nostalgique de tout, de gens que j'ai connus, de situations, de lieux. Je suis nostalgique de tout. Là, je suis déjà nostalgique d'un voyage que j'ai fait en Guadeloupe il y a même pas 2 mois. Et j'y pense déjà avec une énorme nostalgie, ouais. Donc, tu vois, je suis très nostalgique dans la vie. Donc, je pense... c'est intéressant comme question. Mais, en fait, c'est bête. Mais je pense que... Mais même sans être vieille, hein, ça va arriver très tôt, puisque je suis nostalgique de tout. Je serais très nostalgique de la vie que j'ai vécue, là, avec mon compagnon, donc, de qui je me sépare, même si, vraiment, c'est d'un commun accord pour le coup. Vraiment, tous les deux, on est totalement d'accord. C'est moi qui en ai parlé en premier, mais on est tombé vite d'accord. C'est une histoire qui est naturellement arrivée à son terme, mais... franchement, on aura vécu des années, je pense, géniales. On restera très, très proches, mais ce sera plus pareil, puisqu'on va plus habiter ensemble, parce que chacun va refaire sa vie. Et donc, et je sais que ça restera toujours dans un coin de ma tête. Et moi, je me projette déjà dans la nostalgie que je vais ressentir après. Je regarde déjà des photos. Je regarde des photos de lui que j'ai prises, comme si on était déjà plus ensemble. On l'est théoriquement plus, mais on vit encore sous le même toit. Et en me disant, oh là là, je sais que je vais regarder ces photos plus tard en étant vraiment triste, quoi, mais en me disant, en même temps, je ne vais pas revenir en arrière et je ne veux pas revenir en arrière. Mais ouais. Et bon, je pense que quand je serai vieille, il y aura d'autres choses d'ici là qui se seront passées, mais je sais que ça fera partie des choses auxquelles je pense énormément. Bien sûr, je parle d'amour, hein, qu'est-ce que j'allais dire d'autre ?
La boucle voilà. Est bouclée. Le podcast s'appelle La Zone en référence à la sortie de sa zone de confort et à l'entrée dans sa zone de génie. Alors toi, Samia, qu'est-ce que tu as laissé dans ta zone de confort et qu'est-ce que tu as trouvé dans ta zone de génie ?
Waouh ! Eh bien... Ah, c'est intéressant. Attends. Je réfléchis un petit peu. Ah, en fait, on parlait tout à l'heure de la précarité financière. Je pense que c'est bêtement ça, près, que j'ai trouvé dans ma zone alors de génie, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui, effectivement, comme tu dis, où nos envies s'alignent avec le reste. Et donc là, aujourd'hui, je fais quelque chose qui me plaît énormément, mais la précarité, je la sens. Je l'ai un peu moins sentie pendant 2-3 ans, où tout a bien roulé. Mais très honnêtement, là, je suis en train de sentir les effets de la crise économique. Et je ne suis pas la seule, je parle avec d'autres personnes qui vivent du podcast et qui... ont la même ancienneté que moi, donc c'est pas une ancienneté énorme, mais enfin, à l'échelle du podcast, c'est quand même pas mal. Et en fait, c'est un moment difficile à passer là. Vraiment, il y a moins d'opportunités. Donc, ouais, c'est plus vraiment le confort là, financièrement. Et au moment où on vit une rupture, et qu'on doit trouver un autre appartement, et qu'on est en freelance, et qu'on vit à Paris, Et tout ça, c'est, tu vois, je me dis, waouh, bah, c'est marrant, les choses se copient pas. Et c'est fou parce que ça renvoie aussi énormément à ce qui s'est passé pour moi il y a quelques années, où ma rupture a coïncidé avec aussi une précarité financière. Et là, je me retrouve un peu là-dedans. Donc, c'est intéressant. Je pense que c'est cyclique. C'est cyclique, mais tu vois, je sais qu'il y a un moment donné où ça allait beaucoup mieux. Donc, là, c'est pareil, ça ira mieux.
Bah, on finit sur une note très positive.
Ouais. Faites du podcast, vous n'aurez pas d'argent.
Faites du podcast.
Non, mais vraiment, je dis ça parce que si ça avait été depuis 4-5 ans, je pense que je ne l'aurais pas dit avec autant de... Non, vraiment, c'est récent. C'est lié à la conjoncture économique. Et encore une fois, il y a des gens qui galèrent beaucoup, beaucoup plus. Et je sais que ça va passer, il n'y a pas de souci.
Et surtout, voilà. Ben, tu fais ce que tu aimes.
Ouais, exactement, je fais ce que j'aime et ça, c'est très, très chouette.
Merci beaucoup, Samia.
Merci beaucoup, Emmanuel. Vraiment, c'est très, très cool. J'ai trop, trop aimé parler avec toi. C'était hyper intéressant. Et ravie de découvrir que j'ai un clone, quelque part.
Merci à mon invité d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à vous pour votre écoute. Retrouvez toutes les références de notre discussion en barre de description. Si vous aimez le podcast, partagez-le et parlez-en autour de vous, à votre famille, à vos amis et même à votre voisine un peu chelou. On peut aussi s'en parler par mail ou sur Instagram à La Zone Podcast. Prenez soin de vous et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.